J'ai personnellement grandi bercée par les romances sous toutes les formes de divertissement que ce soit. Livres, films, pièces de théâtre, musique, manga et j'en passe. J'ai adoré en lire encore et encore et c'est toujours à l'heure actuelle mon genre favori de lecture, de films, etc. Néanmoins, à l'âge où j'en consommais plus que jamais, il m'était totalement impossible de ressentir toutes ces choses que je dévorais dans ces œuvres de fiction, dans la réalité. Comment pouvais-je adorer la romance à ce point et me sentir incapable d'aimer dans la vraie vie? Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait toujours un truc qui clochait dans mes relations et qui faisait qu'elles n'aboutissaient jamais à rien, me laissant insatisfaite, frustrée de ne pas connaître ce merveilleux sentiment qui pourtant m'entourait en permanence? Pourquoi ne pouvais-je pas être cette adolescente, cette jeune adulte normale, comme c'était le cas tout autour de moi, à vivre ses premiers amours, ses premières expériences, ses premières déceptions? Est-ce qu'au final, le problème n'était pas ma capacité à aimer, mais plutôt ma perception de l'amour en général? Et est-ce que tout cela n'aurait pas été pourri, atrophié par toutes ces œuvres de romance qui justement m'entouraient tout le temps? Si vous vous retrouvez dans ce cas, ou que vous êtes juste curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Summer Talk avec Rouliette. Installez-vous confortablement, ou au contraire, partez pour une petite marche, c'est parti! Bonjour à toutes et à toutes et merci d'être là à partager ce moment en ma compagnie aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et vous l'avez vu au titre, en quoi les films et livres de romance pourrissent notre vision de l'amour. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Je pose souvent en fait des questions sur mon compte Insta dédié au podcast que vous pourrez d'ailleurs retrouver en description si ça vous intéresse. Notamment des sujets que vous aimeriez le plus voir être abordés dans les podcasts de manière générale. Et très souvent revient la question de l'amour, de l'amitié, de ces relations-là spécifiquement. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé en fait d'orienter le sujet autour de l'amour. Je pense que c'est un sujet qui nécessitera plusieurs épisodes parce qu'il y a tant de choses à en dire, mais je voulais absolument commencer par celui-là parce que moi, dans la manière entre guillemets dont j'ai construit mes premières expériences amoureuses, mes premières leçons, on va dire mon recul général, ça commençait par cet axe-là. La question de l'amour, elle est centrale à notre société. En deux mots, l'amour, il est partout, tout le temps. Il semble alors évident qu'il nous est difficile, et pour certains plus que d'autres, de passer à côté sans s'en préoccuper. Surtout dans une ère où les réseaux sociaux ont plus que massivement relayé de leur côté la chose, où chaque couple se met de plus en plus en scène comme le couple in, le couple rêvé, le couple unique, le couple qui n'est pas comme les autres, qui a l'air de tout droit sortir d'un film, le couple instagrammable, ou tiktokable, ou ce que vous voulez. De mon côté, je suis loin d'être une spécialiste de l'amour, mais après tout, est-ce qu'il en existe même, au-delà de ceux qui tout simplement l'expérimentent ou l'ont expérimenté? Je ne pense pas. C'est vrai en fait, s'il y a bien un domaine où il n'y a pas de science exacte, de thèse ou de doctorat pour être un pro de l'amour, c'est bien celui-là. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun sentiment au fondement le plus inexact et inexplicable que celui-ci. Et là, dans cet épisode, je parle vraiment d'aimer d'amour. Pas d'aimer parce que la personne vous apporte un sentiment de sécurité matérielle par exemple, ou de stabilité de vie, car elle veut fonder une famille dans le sens où vous l'entendez. Je ne dis pas que ce n'est pas de l'amour, je cible juste moi dans cet épisode et dans ceux à venir je pense, celui que j'entends comme le sentiment d'amour brut, qui se veut désintéressé et qui existe juste parce que la personne est et parce que vous êtes, sans aller au-delà de ça. Ce que je vise dans cet épisode, c'est vraiment et essentiellement la perception de l'amour et sa capacité en fait à le ressentir. Parce que moi, en grandissant, mon problème, c'était pas nécessairement de ne pas trouver des personnes qui me correspondaient, c'était en fait de parvenir à les aimer. Genre, c'était hyper ambivalent parce que je pouvais avoir des crushs de fou sur des personnes, au point de penser qu'à elles et à quel prénom nos enfants pourraient avoir, à ma tenue au mariage, bref, un enfer. Mais quand il s'agissait de la vérité et que je finissais avec certaines de ces personnes à avoir une histoire, ça me convenait pas du tout. Je m'ennuyais, je me lassais, je m'y retrouvais pas. Alors même que j'avais pu être amoureuse de certaines de ces personnes dans l'ombre pendant des mois et des mois avant. Alors, ça faisait aucun sens. Du coup, je vais vous donner... c'est la première fois que je fais ça dans un podcast, de vraiment utiliser mon expérience perso, surtout sur un sujet aussi intime que l'amour. Mais je trouvais que c'était très intéressant et moi j'aurais aimé qu'on me le dise plus jeune, donc c'est le but de ce podcast, c'est qu'on s'informe et qu'on se fasse évoluer ensemble. Donc je vais vous communiquer l'histoire de mon parcours sentimental en trois leçons, by Juliette. Au début, mes premières histoires, en fait, elles finissaient en jus de boudin et je me disais que c'était comme ça, que c'était pas les bonnes personnes qu'il me fallait et puis on me le rabâchait aussi autour en fait. On me disait « Non, mais si c'était la bonne personne, tu te poserais pas la question, tu le saurais au fond de toi et tu foncerais, c'est que c'était pas les bonnes personnes pour toi si ça a pas fonctionné, et basta. » Sauf qu'au bout d'un moment, moi, j'ai commencé à douter. C'était forcément plus que ça, en fait. Parce qu'une fois, c'est une coïncidence que ça marche pas. Deux fois, c'est la faute à pas de chance. La troisième, ça commence à nous faire dire que c'est peut-être pas que l'autre le problème, entre guillemets. Et la quatrième nous pousse à comprendre que le problème est peut-être plus profond que ça. Alors j'ai commencé, de ce constat, à essayer de comprendre comment le problème en fait pouvait se résoudre. Peut-être qu'il fallait que je me lance dans des relations justement sur lesquelles j'avais pas eu le temps de me faire mille et un scénarios pour éviter d'être déçue que mes fabulations ne se réalisent pas en vrai. Et spoiler, ça n'a pas marché pour moi. J'ai très vite compris que je pouvais pas faire partie des gens qui se mettent en couple ou dans une histoire de manière générale et voient ensuite avec le temps si des sentiments amoureux émergent. Moi, soit je les ai, soit je les ai pas. Et je parle pas ici d'aimer de tout son cœur, mais bien du sentiment amoureux. Celui qui se base pas encore sur une connaissance approfondie de la personne, mais sur ce qu'on en voit, forcément en surface, et qui finira ensuite par possiblement être remplacé par de l'amour. Et ça, j'ai toujours su plus ou moins rapidement. Et voilà quoi, le constat que j'ai eu en fait, c'est que si j'ai pas ça, un minimum, genre une mini base, je peux pas juste me lancer dans des histoires d'amour et voir après. Donc après ce premier échec de réflexion, enfin, ce premier échec de en mode ouais, YOLO, j'y vais, puis on voit, je me suis dit qu'il fallait que je trouve plutôt quelqu'un qui échapperait à ce contrôle que j'ai de tout voir au-delà de ce qui est. Fallait que j'ai quelqu'un qui m'échappe, quelqu'un qui est indépendant face à ma perception de l'amour et qui me force même à la faire évoluer. Quelqu'un qui ne plie jamais sous ce que je veux, mais quelqu'un qui me challenge, qui m'empêche de toujours penser. Quelqu'un qui m'ancre dans le présent, où la seule chose qui importe, en fait, c'est nous deux. Deuxième échec massif. Pardon, en soi, ça n'a pas été totalement un échec, parce que je l'ai trouvé, cette personne hein, qui m'échappait. Je l'ai trouvé, cette personne qui, pour la première fois, me confrontait à des choses que j'avais jamais connues et qui a creusé encore plus profond en moi que personne ne l'avait fait. Une personne avec qui il y avait toujours des choses à dire, toujours des choses à vivre, toujours des choses à débattre, toujours des choses à s'engueuler. Sauf que voilà en fait où la corde s'effiloche. Vivre et aimer fort, ce n'est pas forcément vivre et aimer bien. Une personne qui vous empêche de trop penser, c'est aussi une personne qui vous empêche de vous rappeler ce que vous voulez vraiment et ce que vous méritez vraiment. Et la raison pour laquelle ce fut pour moi un deuxième échec, c'est parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre que ce que j'avais aimé dans la relation, c'était pas vraiment la personne, mais plus qu'elle m'avait fait vivre. Le fait d'être enfin cette fille qui ne réfléchissait plus constamment à tout et tout le temps, mais qui vivait. Juste ça. Sauf qu'il s'agissait d'une solution assez extrême pour obtenir ce résultat, qui avait instauré un lien assez toxique, de quasi-dépendance, je dirais, qui avait fini par nous étouffer tous les deux. Et parce que c'est aussi fort et toxique, on se leurre à croire que c'est en vérité beau et puissant, alors que pas du tout. C'est juste forcément toxique et c'est tout. Il n'y a rien de beau en ça. Après ce déboire, je vous avoue que j'ai plus trop cherché à comprendre. Déjà parce que j'ai mis très longtemps à comprendre tout ce que je viens de vous dire juste au-dessus. Ça m'avait montré aussi une facette de ce que je croyais être l'amour et que j'avais détesté. J'avais détesté la personne que j'avais été pendant la relation, le mal-être que j'avais pu ressentir, de la manière dont j'avais été traitée, etc. Je m'étais dit qu'en fait, si l'amour devait ressembler à ça, pour que je me sente plus juste spectatrice de ma vie, ben ça en valait pas le coup. Et puis, on arrive à The Last Lesson. Après du temps, je me suis dit que le problème était que j'avais été chercher une personne, en fait, qui était à l'extrême opposé, ou presque, de ce qui me ressemblait. Le but, c'est pas que je cherche une personne qui me ressemble complètement, genre, ça va, je me tolère parce que je vais passer toute ma vie avec moi-même, mais j'ai aucun intérêt à sortir avec quelqu'un qui est comme moi, genre, je cherche à être stimulée, à être enrichie, pas à être confortée et à jamais sortir des sentiers battus. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, faut peut-être que je cible quelqu'un avec qui j'ai plus de goûts communs, de centres d'intérêt, de valeurs, de manières de penser la vie, etc. Et de ce fait, j'ai rencontré de très belles personnes, vraiment adorables, avec qui je m'entendais mais comme la roue en foire, et avec qui je partageais plus que je n'avais jamais partagé avec qui que ce soit auparavant. Et pour autant, boum patatrac, ça ne fonctionnait toujours pas. Je n'arrivais pas à développer de sentiments amoureux envers qui que ce soit. À ce moment-là, j'ai fini par me dire que bon, je dois pas attendre les mêmes choses que les gens, sinon ben, je serais amoureuse comme ceux qui m'entourent. Et que c'est pour ça que ma capacité à aimer, elle doit être biaisée, parce que j'attends pas les mêmes choses. Sauf que y a un truc que je comprends pas, et très vite, je le verbalise, c'est j'arrive pas à aimer amoureusement, mais pour autant, j'arrive tellement à aimer de tout mon cœur amicalement, familialement. Également, genre, comment je peux ressentir autant les sentiments que mes personnages vivent dans les films, dans les séries, etc., dans les mangas ou peu importe, mais pas dans la vraie vie. Vraiment sur la question de l'amour, pourquoi je ressens tout ça et je comprends tout ça dans les livres et pas dans la vraie vie, eh bien c'est tout simplement parce qu'il s'agit de fiction et non de réalité. Peut-être qu'avec tout ce petit brief perso de mes expériences amoureuses, de mes conclusions, vous avez perdu la problématique de l'épisode du jour de vue. Et même, vous êtes peut-être demandé comment j'allais bien le raccrocher en fait et y répondre, à savoir en quoi les livres et les films de romance pourrissent notre vision de l'amour. Eh bien, nous y sommes. Et d'ailleurs, je rajoute, comme j'ai dit tout à l'heure, une mention spéciale aux réseaux sociaux dans la participation de la chose, hein, un point douté. Déjà, le truc, c'est que le genre de la romance, ça a toujours existé. Depuis aussi loin qu'on s'en souvienne, il s'agira toujours d'un sujet qui habite les hommes, les artistes, les gens qui créent et qui ressentent, car c'est un sentiment qui fait partie de nous sous plein de strates différentes. Famille, les amis, les amours, nous en sommes pétris à tous les niveaux. Cependant, là où, par exemple, l'explosive, la magnifique histoire d'amour de Roméo et Juliette de Shakespeare se finissait il y a quelques siècles par un suicide des deux amoureux, empêchant toute envie de reproduction de cette relation dans la vie réelle et de fantasme de cette relation dans la vie réelle, les histoires de New Romance actuelles, que ce soit dans les livres, les films, elles, non seulement en fait, elles vont représenter des extrêmes amoureux, mais qui en plus se finissent par des happy endings. On ne voit dès lors plus la subjectivité en fait, de la fiction qui est racontée. On en voit juste l'issue, heureuse, quoi qu'il se soit passé. Alors bien sûr, je grossis le trait. Oui, toutes les fictions de New Romance ne se finissent pas en happy ending. Oui, il y en a qui ne sont pas toxiques et c'est tant mieux. Mais vous voulez que je vous dise, l'impact en fait des deux, il est problématique, je pense, pour beaucoup. Surtout quand on est jeune, qu'on est influençable, qu'on n'a pas encore d'expérience, de recul dans le domaine, on absorbe plus qu'on ne vit. Et je vais citer Hugh Grant, donc à savoir un acteur émérite d'un grand nombre de comédies romantiques mythiques des années 90, qui avait dit dans une interview que les films de romance dans lesquels il avait joué étaient la plus grande connerie qui existe en termes de représentation de l'amour. Et je peux être que d'accord avec lui. Le fait en fait c'est pas de dire que les films d'amour ou les livres d'amour sont de la connerie, mais que la représentation qu'ils font de l'amour, elle, en est une. Car il s'agit de fiction. Il ne s'agit pas d'un essai philosophique sur la question ou d'un témoignage, il s'agit de dialogues fictifs entre personnes fictives sur fond de décors fictifs. Et ça, en soi, de manière isolée, ce n'est pas un problème. Heureusement que les humains créent des histoires qui nous permettent de nous échapper un instant de ce que nous connaissons tous, sinon ce serait bien ennuyeux et pesant en fait comme divertissement. Le problème, c'est qu'encore une fois, étant jeune, on baigne dans cette perception fictive et non réelle de l'amour en permanence. On n'entrevoit que des grandioses rencontres, celles qui justement ne peuvent qu'être racontées en une explosion de papillons et de lumières stroboscopiques, là je ne sais plus comment on dit, dans nos âmes sur fond de musique de Disclosure ou Céline Dion, je sais pas. On raconte et on ne voit que très peu d'histoires banales en fait, au contraire. De la vie de tous les jours, qui apporte des choses saines, simples, durables ou non entre deux personnes. Et là où il est beau que la fiction existe pour nous divertir, elle pèse dans le négatif quand il s'agit de donner, d'établir une représentation de l'amour dans la vie de tous les jours. Parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, tout ça représente pour nous la représentation la plus massive en fait de l'amour. Tout se mélange en fait. À un âge où la seule chose que l'on devrait avoir en tête concernant ce sujet serait « Tiens, est-ce que cette personne me plaît ?» Point, barre. Et où il n'est pas nécessaire d'ailleurs de chercher de poursuivre l'amour tout le temps. On ne devrait pas se poser des questionnements du genre « Est-ce que cette personne va me faire ressentir les papillons dans le vent tel Hardin et Tessa dans After ? Est-ce que je vais brûler d'une passion qui me donnera envie de faire le tour du monde et plus encore pour cette personne ? Est-ce qu'on refera la vie ensemble tous les soirs sans jamais s'épuiser de parler ? Est-ce que cette personne me fera sentir différente ? Est-ce qu'il ou elle comblera des vides qu'il n'a jamais créés lui-même ? Est-ce que nos photos rendront bien sur les réseaux pour nos 1 an d'anniversaire et même plus ? Il faut que je trouve quelqu'un pour réaliser tout ça, pour comprendre tout ça. » Et j'en passe. C'était que des petits exemples isolés. Le souci, c'est que nourrie à la romance et aux avis sociétaux sur la question de l'amour, de mon côté, par exemple, je ressentais comme un besoin impératif, impérieux, d'expérimenter ça, en omettant complètement la part spontanée et non contrôlée de la chose en elle-même. Je savais juste une chose, ne pas y avoir accès, me donner le sentiment d'être trop différente des amis de mon âge, de tous ces gens en général, et de manquer quelque chose en termes d'expérience et de vécu. On a tous eu cette phrase de « ouais, tu verras quand tu l'auras vécu, ouais, tu comprendras quand tu l'auras vécu ». Et dans un sens, la phrase fait sens. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne les a pas vécues. Néanmoins, ça, moi, très jeune, ça m'a instauré une pression de devoir connaître ce sentiment-là. Et au lieu, du coup, de juste me laisser bercer par l'amour, de me dire, enfin, de ne pas le chercher, mais de me dire, bon, ben là, j'atteste, c'est une personne que j'aime ou que j'ai envie de découvrir, voilà, ou dont je me sens amoureuse. Pour moi, c'était un besoin. Je courais après l'amour parce que j'en entendais parler de partout et je me sentais exclue, seule de ne pas l'avoir vécu. Alors qu'en fait, c'est juste une question de temps, c'est une question d'envie, de maturité de personne. Mais voilà, moi, j'en avais fait un besoin impérieux à cause de tous ces facteurs. J'étais celle qui n'avait pas eu de premier amour. J'étais celle qui n'avait pas eu de cœur brisé, pas eu quoi que ce soit, parce qu'en fait, elle n'arrivait même pas à aimer. Sauf qu'en vérité, je vais vous le dire à ce point du podcast, le problème, c'était pas que j'étais pas capable de ressentir l'amour, c'est que je confondais la manière de le faire et de le ressentir. Dans les livres, quand on vous parle d'amour, on vous parle de papillons, de sentiments de brûlure dans le ventre qui vous prend tout entier, et de plein d'autres choses extraordinaires. D'évidence, de quand tu sais, je l'ai vu, je l'ai voulu, c'était là. Alors déjà, angoisse, hein. En amour, faut arrêter le délire de propriété, de « tiens, moi, je t'ai vu, je t'ai... » Non mais pardon, mais je l'ai trop lu, je l'ai trop vu, genre sur les réseaux, les livres, ce n'est pas possible. Ça, j'en ferai un autre épisode de podcast parce que c'est pas la question ici. Mais angoisse. Ce que je veux dire en fait par là, c'est que j'arrivais pas à... C'est pas que j'arrivais pas à ressentir l'amour, c'est que je n'arrivais pas à le voir comme existant dans des relations que j'ai pu avoir ou juste des personnes que j'ai pu rencontrer parce qu'il ne ressemblait en rien à ce que je voyais dans la fiction, dans les réseaux sociaux, ce qu'ils nous vendaient comme rêve de relation parfaite. Moi, je voyais pas, j'avais pas ces papillons. Je m'en souviens, c'est la seule anecdote vraiment perso que je vais vous dire. Mais c'est trop mignon. La première fois que j'ai embrassé quelqu'un, genre vrai premier bisou, d'accord, cette personne m'a embrassé et je me souviens, en fait, je trouvais ça très agréable. Je me suis dit, tiens, c'est trop cool, j'aimais bien les personnes. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire à la personne « Non, non, je veux rien avec toi. » Et la personne m'a dit « Pourquoi ?» Et je lui ai dit « Mais parce que j'ai pas ressenti les papillons. » Avec le recul, je me dis « Mais quelle connerie !» Genre, je sais pas comment la personne en face n'a pas fait pour éclater de rire, mais... Vous voyez à quel point j'étais matrixée par la représentation que je croyais être la bonne de ce que je lisais. Moi, je lisais tellement ces putains de papillons dans le ventre que j'étais persuadée que si je les avais pas, mais en fait, ça veut dire que je t'aimais pas et que j'étais pas capable de t'aimer pour la suite. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà, en plus, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la théorie des papillons, que c'était pas du tout un signe en mode trop mimes, mais ça pouvait être plutôt être un signe d'être inconfortable, d'être stressé, etc. Mais bref, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que l'amour, de manière générale, ça se résume pas aux papillons ou aux flammes ou à je sais pas quoi. L'amour, il peut se ressentir, en fait, et exister d'un millier de manières différentes. Il n'y a pas une manière plus vraie qu'une autre. Il n'y a pas une manière plus forte, plus belle, plus passionnée de l'amour que l'autre. D'ailleurs, oui, l'amour passionné existe, mais est-ce qu'il représente une fin en soi ? Est-ce que l'Everest que nous devons tous indéniablement poursuivre pour se dire qu'on aime bien ou qu'on est justement bien aimé, c'est la passion à tout prix ? Non, je vous le dis, je vous spoil, ce n'est pas un Everest. Je vous dis pas de vous enliser dans des relations chiantes comme la pluie, je vous dis simplement que, comme les relations en fait que vous pouvez avoir avec vos meilleurs potes, parfois vous allez vous taper les plus grandes barres du siècle, refaire le monde avec eux, et ça va être trop génial. Mais il y a des fois où vous allez juste être assis, et je sais pas, regarder un film, votre téléphone, un paysage ensemble, à pas parler, et c'est aussi génial. La passion, elle a pas besoin d'être ressentie tout le temps, d'exister tout le temps, pour justifier de la beauté, de la véracité d'une relation, surtout en amour. On a tendance à croire que parce qu'on est dans la strate amoureuse, c'est hyper différent de tout le reste, et dans un sens, oui, vous allez avoir une intimité avec la personne qui n'a rien à voir avec toutes vos autres relations. Mais sur la question de l'amour en soi, pourquoi ça devrait être une conquête chevaleresque quand il s'agit de sentiments amoureux par rapport aux sentiments amicaux qui, honnêtement, nous animent parfois autant, voire plus ? Vous voyez, si on est capable de mettre les amis au même rang que la famille et que l'amour, enfin dans le sens où ça, c'est tellement important dans nos vies, alors pourquoi on attendrait des choses mais spectaculairement plus importantes en amour qu'en amitié ? Quand bien même, encore une fois, les rapports ne sont pas du tout les mêmes. Je suis bien d'accord. Et ce point, moi, j'ai mis très, très très longtemps à le comprendre. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, à force de me nourrir de ce que je me nourrissais, je croyais que l'amour, ça devait être constante passion, flamme, papillon, etc. Et c'est notamment ce qui m'a fait me planter mes royales lors de la relation dont je vous ai parlé dans le deuxième cas, qui était hyper toxique. En fait, je croyais que c'était de l'amour parce que c'était tellement fort et tellement puissant, c'était obligé que ce soit le cas. C'était ce qui se rapprochait le plus des fictions que j'avais lues. Alors que pas du tout, pas du tout. J'avais l'impression d'être la fille que je lisais dans mes livres ou que je voyais dans les films parce que tout allait à une vitesse folle et exponentielle et je maîtrisais rien. Sauf que ces critères, oui, parfois ils peuvent accompagner l'amour, mais ils sont pas forcément toujours des présages sains et normaux de celui-ci. Et moi, je me suis complètement leurrée longtemps sur cette ambivalence. Parce que je me disais, mais c'est ce que je vois, c'est ce que je lis, c'est ce que je ressens, alors pourquoi c'est pas ça? Pourquoi ça ne serait pas ça? Et du coup, ce faisant, je me suis enlisée dans une relation qui était toxique et qui m'a desservie sur beaucoup de points et dont j'ai vraiment mis longtemps à m'en remettre et à en tirer les bonnes conclusions. Et donc, quand j'ai réfléchi à ce sujet, donc après avoir vu toutes les demandes sur le compte Insta, je me suis rendu compte, après avoir décanté tout ça, que la plus belle chose qui pouvait m'arriver en fait à l'heure actuelle en amour, c'était quelque chose que je ne pouvais ni expliquer, ni comparer à quoi que ce soit que j'avais lu ou vu. Que la seule chose qui compte en fait, c'est de se rappeler que c'est là qu'existe et réside notre capacité à aimer, dans le réel de la vie, et non dans la fiction de ce que pourrait être ou de ce que pourrait représenter la personne parfaite. Car spoiler, elle n'existe pas, et vous non plus, vous ne l'êtes en rien. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Dans le réel de la vie, on se confronte aux failles, aux vrais défauts de l'autre, et on décide de vivre ou non avec, de faire ou non des compromis, d'accepter de mettre son ego de côté, par contre de toujours protéger notre dignité et notre intégrité. Dans le réel, où les choses ne sont pas forcément simples, mais où on fait de notre mieux, et où on ne part pas en courant parce qu'on aurait fantasmé la personne, en s'apercevant plus tard, en apprenant à la connaître, que l'idée rêvée qu'on s'en était faite, en fait, n'était pas réelle. Parce qu'aimer, c'est dépasser le beau et le fantasme, et vivre avec le vrai, qui parfois n'est pas toujours beau. Et là, vous êtes peut-être à vous dire, mais Juliette, comment dépasser le fait de fantasmer la version parfaite et mystérieuse de cette personne, pour ne plus jamais avoir le sentiment de se lasser, et pour enfin tomber amoureux, pour enfin aimer? Et bien, simplement, dites-vous deux choses, en plus de tout ce que je vous ai dit avant. De un, vous êtes pareil. Vous êtes complètement humain. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas mystérieux, et vous aussi vous avez des qualités comme des défauts. Arrêtez de croire que vous êtes un cadeau de l'humanité en termes d'amour, et que personne ne comprend votre rapport à l'amour. Vous existez et c'est tout, et c'est déjà extraordinaire. En acceptant ça en fait, que tous autant que nous sommes, nous existons, et c'est juste ça, vous trouverez la simplicité des autres bien plus belle, parce qu'elle sera vraie. Vous ne serez pas dans la rêverie, vous ne serez pas dans le fantasme, vous serez dans la réalité. De deux, je reprends ce point parce que moi je l'ai trouvé essentiel. Si vous êtes capable d'aimer de plus en plus certains de vos meilleurs potes les années passant, malgré le fait que vous vous connaissiez sous toutes les coutures, que plus rien ou presque ne vous surprenne venant d'eux, pourquoi ce serait pas le cas en amour? Pourquoi vous vous lasseriez en amour, mais pas en amitié? Encore une fois, oui, il s'agit pas de la même relation, mais il s'agit d'amour, non? Je pense qu'il est nécessaire d'un peu dépiédestaliser peut-être la hauteur qu'on cherche tant à donner à l'amour amoureux. Parce que oui, il est beau, est extrêmement différent des autres formes d'amour, mais il n'en reste pas moins que de l'amour. Un choix qu'on refait tous les jours et qu'on entretient du mieux qu'on peut, si on en a envie et si la personne en face en a envie aussi. Moi personnellement, je m'émerveille de cet amour que j'ai pour mes meilleurs potes et qui se décuple de plus en plus fort les années passant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a vécu tant de choses ensemble, qu'on est resté ensemble, qu'on a appris à dompter les défauts de chacun et qu'on a continué de se donner de l'attention, de la bienveillance et de l'amour. Je suis bénie d'évoluer avec eux, quand bien même certains sont partis en cours de route. Parce que c'est ça qui, plus que jamais, m'a fait être ancrée dans le présent. Et pas les fantasmes que je lisais dans les œuvres de fiction. C'était les gens qui étaient là, et que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à aimer. Et ça, c'est ancré au fond de nous. Pour finir, si les romances nous l'ont fait oublier, l'essentiel, comme je vous l'ai dit, il est là. L'amour, pour être ressenti, il a besoin d'aucun éclat, d'aucune grande lumière en absolu. Il a juste besoin d'une personne qui vous plaît, à qui vous plaisiez aussi, et qui a envie de s'aventurer à vous connaître encore, et encore, et encore. Alors apprenez à observer les attraits simples, beaux et réels de la vie, et à les aimer chez vous comme chez les autres. Parce que c'est de là que commencera à naître, je vous le souhaite, votre capacité à aimer de tout votre cœur, et à vivre des choses extraordinaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Laissez des avis ou des notes, ou les deux sous ce podcast, ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis aimez. Et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.